Regard sur le Grand Victoria est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire, seul organisme mandaté pour soutenir financièrement les radios communautaires et de campus du pays. Regard sur le Grand Victoria. Votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité municipale. À retrouver tous les mercredis à 11h et en rediffusion le samedi à 10h sur les ondes de Radio Victoria 103.9 FM. Mais aussi en balado sur radiovictoria.ca. Bonjour, bonjour à tous, François Macon au micro pour cette nouvelle émission de Regard sur le Grand Victoria. Merci à vous d'être fidèles au 107.9 FM et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission et une nouvelle demi-heure que nous allons passer ensemble. Je vous invite à rester patient car dans une toute petite poignée de minutes, je vous livre une interview très enrichissante et très intéressante. Une interview que j'ai enregistrée avec Marie-Lou Gagnon. Marie-Lou Gagnon qui est professeure en sciences infirmières à l'Université de Victoria et chercheuse à l'Institut canadien de recherche sur l'usage des substances. Elle nous livrera son analyse, ses inquiétudes, son optimisme aussi quant à la situation compliquée, périlleuse, dangereuse que sont en train d'expérimenter les personnes vulnérables, les sans-abri dans la région du Grand Victoria et quelles sont également les pistes de sortie de crise, quelles sont les perspectives. Nous évoquerons tout cela avec elle tout à l'heure. Mais d'abord, c'est l'heure, vous le savez désormais, de votre tour d'horizon de l'actualité locale. On commence tout de suite avec North Saanich. Comme vous en êtes certainement rendu compte, tous les niveaux de gouvernement évaluent en ce moment les moyens par lesquels ils peuvent fournir un soulagement financier temporaire aux particuliers et aux entreprises afin de réduire les impacts économiques de la crise. Ainsi en va-t-il de même à North Saanich qui a décidé lundi en conseil municipal de renoncer aux pénalités sur les dernières factures de services publics, mais également d'accorder un délai supplémentaire pour payer ces mêmes factures. Une pénalité de 10% est normalement appliquée au solde impayé 61 jours après la date d'échéance du relevé. Aussi, la municipalité estime qu'une perte de 11 000 $ est envisageable, une perte jugée acceptable par les élus. Et lundi soir dernier se déroulait également le conseil municipal d'Esquimalt. Les élus étaient réunis pour étudier les propositions d'augmentation des taxes de propriété. Trois scénarios ont été étudiés. Un premier avec une augmentation de 2,97%, un deuxième avec une augmentation de 2% et un troisième avec une augmentation de 0,94%. Les élus, dans un contexte d'incertitude, n'ont pas voulu faire peser une augmentation des taxes de propriété trop importante sur leurs concitoyens et ont estimé qu'une nouvelle charge à hauteur de 2%, ce qui représentera un surplus de 315 000 $ pour la collectivité, serait acceptable. La municipalité d'Esquimalt a également adjoint les fonds de réserve et d'urgence du budget 2019 au budget 2020 pour se prémunir des risques économiques de la pandémie et prévoir la sortie de crise. Et enfin, Victoria traverse une période particulièrement difficile. La maire, Lisa Helps, a déclaré cette semaine que les revenus de la ville étaient en chute libre, notamment dû à la fermeture des centres récréatifs et également à la baisse de la fréquentation en centre-ville, engendrant une perte de revenus des parkings payants. La ville a annoncé qu'elle aurait dans les semaines à venir des décisions difficiles à prendre et rappeler que les communes n'ont pas l'autorisation de rendre des budgets en déséquilibre en fin d'année. Aussi, la commune envisage de retarder un certain nombre de projets municipaux afin de réaffecter de l'argent pour les services nécessaires. Le report d'un certain nombre de ces projets d'investissement en 2021 et peut-être même au-delà pourrait réaffecter 11 millions de dollars au fonctionnement quotidien et courant de la municipalité. Le conseil municipal de Victoria, qui se réunit ce jeudi, va élaborer une liste de ces projets qui pourraient être susceptibles d'être reportés ou annulés, et également étudier la possibilité de reporter le paiement des factures de services publics à 90 jours. Et enfin également, à l'ordre du jour de ce conseil municipal, une motion visant à examiner les impôts fonciers et la révision du taux d'imposition. Actuellement, il est suggéré aux conseillers d'étudier une proposition autour de 3,35% d'augmentation des taxes de propriété foncière. Toutefois, beaucoup de conseillers ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils envisageraient toutes les possibilités afin de faire baisser ce montant au minimum. Regard sur le Grand Victoria. Entretien. Et comme promis, je reçois maintenant Marie-Lou Gagnon. Marie-Lou qui est professeure en sciences infirmières à l'Université de Victoria et chercheuse à l'Institut canadien de recherche sur l'usage des substances. Marie-Lou, bonjour.
Bonjour.
Merci de répondre à notre invitation.
Ça me fait plaisir.
Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est complexe, qui est souvent jugé comme inextricable. Un thème qui refait surface aussi avec sans doute plus de lumière que jamais, puisque la crise du Covid-19 a mis en évidence la souffrance des populations pauvres, des populations sans domicile fixe. Marie-Lou, c'est un sujet que tu connais bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire actuellement de la situation à Victoria?
Je pense que c'est un excellent résumé de commencer en disant que ces enjeux-là existaient déjà. Et ça fait quand même plusieurs années que des groupes communautaires, aussi des personnes sans-abri très organisées, politisées, demandent vraiment des actions très concrètes du gouvernement pour adresser ces enjeux-là. Donc, il n'y a rien de nouveau. Mais en fait, je pense que c'est bien de commencer la discussion en disant que ces enjeux-là existaient, mais que maintenant, à travers cette pandémie-là, ils deviennent encore plus importants. Et là, on commence à comprendre, je pense, que ce qu'on dit depuis très longtemps, qu'il faut adresser ces enjeux-là. C'est non seulement ces enjeux-là qui vont venir nourrir cette pandémie-là, puis contribuer à la propagation du virus, mais aussi à une plus grande précarité de la population, de moins bon état de santé aussi au niveau collectif. Et là, il est vraiment, vraiment temps. Ça fait très longtemps qu'on aurait dû le faire, mais là, il faut absolument s'attarder à ces enjeux-là. On n'a vraiment plus le choix, en fait. C'est ça que cette pandémie-là nous montre, c'est qu'on est confronté là, et on ne peut pas tourner les yeux. Et donc, beaucoup de pression sur les gouvernements pour passer à l'action.
Alors justement, tu parlais de la pression sur le gouvernement, les différents échelons de gouvernement locaux. Qu'est-ce que tu penses des réponses qui ont été apportées? Alors, je vais t'en citer plusieurs. Et la première, au niveau municipal, à Victoria, la ville a réquisitionné 2 parcs pour pouvoir établir des camps de base qui répondraient aux normes sanitaires en vigueur. Je pense au parc Topaz et Royal Athletic Field. On en discutera certainement après, mais il y a dans ces projets-là apparemment des retards à l'allumage. Il y a aussi le gouvernement provincial qui a attribué une aide d'urgence d'un montant de 1,3 million de dollars à destination des populations défavorisées et sans domicile fixe. Quel est ton point de vue sur ces mesures actuellement?
Bien, premièrement, on n'en sait pas assez sur ces mesures-là. Je dirais que la première chose, c'est que le gouvernement a fait en ce moment, autant au niveau municipal, je dirais que ça relève beaucoup plus du provincial maintenant, parce que depuis le 26 mars, la province a repris le pouvoir de la réponse d'urgence, en fait, et s'est dit le coordonnateur de cette réponse-là. Et donc, ça relève vraiment de BC Housing, donc du ministère au niveau provincial, et non pas juste de la ville. Fait qu'à partir du 26 mars, le gouvernement a repris le pouvoir depuis ce temps-là, mais aussi depuis qu'on a déclaré la crise de santé publique. On n'a pas vraiment eu de mise à jour sur les mesures spécifiques aux populations vulnérables. On a des comptes rendus tous les jours, mais ces comptes rendus-là parlent des soins à long terme, de longue durée pour les personnes âgées, par exemple les hôpitaux. Mais on n'a pas beaucoup d'informations sur ces mesures-là. Fait que je dirais que moi et beaucoup d'autres dans le champ, on se pose beaucoup de questions à savoir quelles sont ces mesures-là, comment c'est coordonné, qui s'occupe de quoi Et moi, en tout cas, à travers mes observations, mes discussions, ce que je peux dire, puis je vais plonger dans la situation de Victoria, c'est que selon les villes, la réponse aux personnes sans-abri là, et leurs besoins, puis aussi les mesures de santé publique pour protéger leur santé sont très différentes. Donc, les accommodements, par exemple, à Vancouver, on utilise des salles à air ouvertes avec des lits de camp, littéralement, qui sont séparés, mais les gens sont dans le même espace. Ici, on propose des campements à air ouverte à l'extérieur en utilisant des tentes puis des services sur place qui, oui, en fait, tardent à être vraiment mis en place. Donc, on n'a même pas, en fait, en ce moment, une vraie réponse, là, Victoria. C'est toujours assez théorique, tout ça. Fait que je ne sais pas, en fait, de quel genre de coordination qu'on parle au niveau provincial, mais on a peu d'informations, puis la réponse me semble assez différente malgré le fait qu'on nous dit que la province s'occupe de tout ça. À Victoria, je dirais que c'est sûr que en ce moment, ce qu'on voit, c'est une accumulation de tentes au niveau, tu sais, vraiment dans l'espace de centre-ville, parce que les gens, finalement, se sont retrouvés face à la fermeture de beaucoup, beaucoup de services, incluant un abri, donc Our Place, qui offre vraiment, tu sais, une possibilité de dormir là, sur place. Donc, ce service-là a fermé, ce qui a mis les gens vraiment à la rue. Donc, on se retrouvait avec beaucoup d'accumulation de personnes sans-abri qui doivent maintenant dormir dans leur tente, sur la rue Pandora surtout. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu des vidéos qui ont circulé ou qui le voient au quotidien en marchant au centre-ville. Donc, c'est sûr que de déplacer les gens du centre-ville à un campement, ça ne va pas régler la question. Les gens ont absolument besoin de leurs services. La plupart des services sont au centre-ville. Ceux qui sont encore actifs, de les placer comme ça dans un campement ouvert, est-ce que ça va répondre à tous les besoins au niveau de la santé publique? Ça me surprendrait. Les gens qui se spécialisent dans ce champ-là, on est tous un peu, en tout cas dans ma communauté, assez critiques de cette réponse-là. Ce qui devrait être mis en place, c'est vraiment un logement acceptable de chaque personne dans une chambre séparée avec sa propre salle de bain, comme on pourrait utiliser des hôtels ou des motels pour ça. Et ça devrait être le standard au niveau de la santé publique en ce moment. Donc, ces campements-là, selon moi, ne répondent pas nécessairement aux standards qu'on devrait viser. Puis c'est d'ailleurs ce que soulevait la personne qui est en charge au niveau des Nations unies de la question du droit au logement. La semaine dernière, elle a lancé ses lignes directrices. Et ce qu'elle demande à tous les gouvernements au niveau de la planète au complet, là, c'est de viser le logement et non pas des mesures temporaires comme ce que propose Victoria avec un campement à air ouverte.
Juste pour resituer, il y a eu aussi des annonces concernant des réquisitions de logements en dur, des logements, des situations d'hébergement pérenne. La ville avec ses partenaires, la ville de Victoria avec ses partenaires BC Housing et Highland Health, a annoncé qu'ils avaient réquisitionné jusqu'à ce jour une centaine de chambres d'hôtel. Est-ce que ça te paraît suffisant? Est-ce qu'il faut encore accroître cet effort? Et pour compléter, la maire a annoncé hier, en début de semaine, pardon, le 1er avril, la maire de Victoria, Lisa Help, a donné le chiffre de 250 personnes en ce moment qui dorment dehors à Victoria. Est-ce que tu es d'accord avec ce chiffre?
En fait, ce n'est pas le portrait de la population sans-abri à Victoria. Ça, c'est peut-être celle qui est la plus visible. Mais on estime à peu près à 1500 personnes qui sont sans-abri à Victoria. Donc, ce chiffre-là est bien en dessous de la réalité. Moi, en fait, j'ai eu quand même le privilège de travailler avec un campement de personnes sans-abri à mon arrivée à Victoria il y a 2 ans. La Colombie-Britannique a connu plusieurs campements comme ça de gens sans-abri qui se sont mobilisés pour essayer de se trouver s'organiser en mode survie ensemble avec des campements comme ça. Puis le campement où moi, j'étais impliquée à mon arrivée à Victoria, là, on parle de 2018, il y avait 100 personnes déjà juste dans ce campement-là. Donc, je pense que 250 est vraiment sous-estimé, là, la population. Beaucoup de gens aussi à Victoria qui quand même vivent dans une pauvreté. La plupart travaillent à temps plein, souvent ont même 2 emplois, mais sont incapables de se louer un logement. Donc, dans cette population-là qui est sans-abri ou qui est logé de façon instable, qui sont moins visibles, mais qu'on doit penser à eux en ce moment parce que c'est vraiment un facteur de transmission du virus que d'être logé de façon instable et de devoir peut-être dormir chez un ami ou dormir chez différentes personnes sur un divan à chaque jour. On ne compte pas ces gens-là souvent dans ces chiffres-là, mais on a besoin de les compter dans notre planification pour les mesures de santé publique. Ça arrive beaucoup à Victoria à cause que le coût de la vie, Victoria fait partie quand même des villes les plus dispendieuses là, côté logement au Canada. Donc, c'est sûr qu'il y a toute cette population-là là, qui est peut-être pas sur la rue Pandora dans sa tente, mais qui est là et il faut penser à eux aussi. Moi, je pense que c'est sûr que d'avoir des chambres comme ça d'hôtel, de motel, on nous dit que c'est fait, que c'est en cours, mais ce que je dois quand même noter, c'est moi jusqu'au moment où les gens, le moment où je vais être moins critique va être au moment où ça va être fait, puis les gens vont être en sécurité et vont être logés. Donc, jusqu'à temps que ce n'est pas fait, pour moi, ça reste que simplement des paroles et des promesses. Donc, il faut passer à l'action. Ça fait quand même depuis le 25 janvier que le premier cas de la COVID a été confirmé au Canada. On est, tu sais, le 17 mars, déclaration de la crise de santé publique à la Colombie-Britannique. Et ces mesures-là sont toujours pas mises en place. Donc, c'est vraiment largement insuffisant là, et trop lent.
Est-ce que tu sais comment en ce moment, avec les restrictions liées aux mesures de sécurité, les travailleurs sociaux s'organisent en termes de logistique, en termes de distribution pour venir en aide à cette population défavorisée? Et on va le rappeler aussi, et c'était très justement dit de ta part, ça ne touche pas uniquement dans notre stéréotype, on peut imaginer uniquement que ça touche les SDF, mais ça touche aussi les travailleurs pauvres, les travailleurs en situation de précarité, des gens qui, pour des raisons effectivement de logements inabordables ou des logements beaucoup trop chers dans la région du Grand Victoria, décident d'opter pour des solutions d'hébergement transitoires ou provisoires, comme par exemple dormir dans leur van. Est-ce que tu sais comment aujourd'hui les travailleurs sociaux s'organisent malgré les restrictions, malgré les mesures de distanciation physique pour continuer d'assurer leur travail auprès de ces populations-là?
Bien, je pense que les personnes en première ligne auxquelles vous faites référence travaillent surtout avec les personnes sans-abri les plus visibles puis les plus accessibles dans le sens qu'ils sont sur la rue, ils dorment sur la rue. Donc, c'est vraiment ce groupe-là normalement qui est sur notre radar, là, comme on dit, mais pour les autres, ça reste quand même des gens qui sont souvent oubliés ou difficiles d'accès parce que c'est des gens qui vont travailler plusieurs emplois, vont vivre dans la précarité, mais ne sont pas nécessairement comme visibles ou facilement identifiables. Et ça, c'est pour moi, Victoria, c'est quand même une ville où il y a beaucoup de ça. Je ne sais pas exactement comment on s'organise en première ligne. Je sais que la première ligne, déjà en partant, Victoria était très occupée. C'est des emplois aussi assez précaires souvent. C'est pas les emplois les mieux payés. Il y a beaucoup de roulements dans ces postes-là. Fait que je sais pas comment ils s'organisent, mais on partait déjà avec une main-d'œuvre qui était assez à bout de souffle, en plus d'une crise de santé publique qui dure depuis 4 ans. Hein. Fait qu'il faut pas oublier que c'est la même. Les mêmes professionnels là, à qui on demande de répondre à cette crise-là, il y en a pas plus qui sont soudainement apparus. Là. C'est les mêmes gens à qui on demande maintenant de répondre à une double crise de santé publique parce que celle des surdoses n'arrête pas non plus. Donc, les besoins sont vraiment énormes sur le terrain. C'est ça. Donc, je pense que c'est tout un défi. Donc, ça serait très apprécié, en fait, pour cette raison-là aussi, d'avoir une meilleure communication au niveau de la province, des mesures qui sont prises, puis aussi de comment tout ça est organisé. Parce qu'il y a quand même, moi en tout cas, je me tiens au courant avec les gens de la première ligne, on suit un peu les annonces et tout ça, mais c'est difficile en ce moment d'avoir une bonne idée là, du sérieux avec lequel on traite la question, puis aussi des ressources qui sont mises en place, puis aussi comment on adresse le fait que les gens à qui on demande de répondre, là, comme ça, en première ligne, sont déjà à bout de souffle. Tu sais, je suis là, l'actualité de très près, puis je ne vois pas beaucoup d'informations là-dessus, malheureusement. Mais ce que j'entends du terrain, c'est que les gens trouvent ça très difficile et ils n'ont pas les ressources nécessaires.
Tu évoques la crise des opioïdes, dont on connaît la gravité partout au Canada, et plus particulièrement ici, en Colombie-Britannique. Est-ce que, selon toi, la restriction de la circulation des biens et des personnes est un facteur d'accroissement de la dangerosité?
Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses en ce moment reliées aux personnes qui consomment des drogues qui viennent contribuer à la complexité de cette double crise qu'on doit adresser. De un, il y a la perturbation, justement, comme vous mentionnez, des drogues de rue, donc où ils sont produites, d'où ils viennent, tout ça, la perturbation du mouvement et tout ça. Donc, les gens se retrouvent soit en sevrage forcé, et ça, ben, c'est une situation très difficile pour les gens qui consomment les drogues de façon qui ont vraiment une dépendance, parce qu'un sevrage, c'est très physique, c'est très douloureux, très inconfortable, puis on a vraiment besoin d'aide quand on se retrouve en sevrage. Ou on peut retrouver aussi en même temps l'apparition d'un nouveau marché, de nouveaux produits qui peuvent aussi poser un risque de surdose. Fait qu'il y a ces deux choses-là en combinaison. Et aussi, ce qui complexifie les choses en ce moment, c'est qu'on dit aux gens de rester à la maison, de réduire leurs contacts, mais dans le cadre d'une crise de surdose, c'est la dernière chose qu'on veut recommander. Parce que depuis le début, depuis 4 ans, on dit aux gens, n'utilisez pas, ne consommez pas seul. Ça augmente vos risques de surdose et de décès de façon significative. Et là, on dit en même temps, bien, restez chez vous, consommez seul parce qu'il y a trop un risque de contracter ce virus-là. Fait que là, on se retrouve avec soudainement une augmentation des décès reliés aux surdoses. Là, on est rendu à, je pense, 16 décès en même pas 2 semaines à Vancouver seulement. Donc, on parle de personnes qui sont décédées par elles-mêmes seules d'une surdose. Puis, c'est pas un hasard. Puis on aussi, en même temps, on retrouve soit un changement au niveau des services de consommation supervisée, soit une fermeture de ces services-là, ou, comme on le voit à Victoria en ce moment, passer d'un site fixe à un site mobile, puis ça ne marche pas pour tout le monde non plus. Fait qu'il y a tous ces facteurs-là là, qui sont en jeu en ce moment. Ça rend les choses très, très difficiles, plus une détresse aussi quand même reliée à toute la situation, moins de ressources, moins de soutien. Et malheureusement, la réponse à cette crise-là, ça a été comme un peu de réduire les services. Puis la plupart des experts dans le domaine sont d'accord pour dire qu'on aurait dû faire le contraire. On aurait dû en fait augmenter les services de proximité, augmenter les travailleurs en réduction des méfaits, les amener vraiment vers les gens, circuler l'information, offrir vraiment du soutien, expliquer aux gens qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais on a fait un peu l'effet contraire, ce qui a créé aussi en fait une situation, je pense, où là, on essaye de faire marche arrière puis de compenser pour ça, mais pendant un bout, les gens ont été un peu laissés à eux-mêmes. Fait que c'est un peu ça, là, l'état de la situation en ce moment. Mais il ne faut pas oublier que quand même, ça fait 4 ans, là, ça va faire 4 ans bientôt, là, presque jour pour jour, qu'on a déclaré une crise de santé publique ici reliée aux surdoses en Colombie-Britannique. Il y a encore 3 personnes par jour qui meurent d'une surdose. Et les décès, là, à date qu'on a vus avec le virus... et équivaut à 2 semaines de surdose, de décès reliés à surdose en Colombie-Britannique. Fait que, tu sais, on parle de comme plus que 5 000 personnes. C'est vraiment majeur. Et il y a très peu de ressources qui ont été allouées à la réponse à cette crise-là. Fait qu'en termes de décès, de sévérité et de ressources, là, quand on regarde les 2 gestions de crise, on parle de vraiment 2 poids, 2 mesures. L'expression s'applique très bien ici. Hein.
Est-ce que tu penses que l'exposition que permet paradoxalement la crise du COVID-19 sur ces populations en difficulté, va permettre une prise de conscience plus généralisée de leur vulnérabilité, de leurs difficultés, et qu'à l'issue de cette crise du COVID-19, on puisse espérer voir des politiques publiques apparaître, des politiques publiques on va dire plus engagées, avec plus de moyens, que ce soit des moyens en personnel, des moyens financiers.
Bien, c'est sûr que je pense, en tout cas, en général, que les gens se sentent vraiment tous très concernés en ce moment, autant par leur expérience d'être isolés socialement ou peut-être d'être plus précaires, d'avoir peut-être plus de difficultés à acheter de la nourriture, de peut-être au niveau de la santé mentale, commencer à trouver ça un peu plus difficile, d'avoir perdu son emploi, de se demander si on va pouvoir être en mesure de garder notre logement. Quand... beaucoup de gens, parce que là, c'est le cas en ce moment, là, on parle de millions et millions de personnes qui vont se retrouver à demander de l'aide du gouvernement parce qu'ils ne sont pas capables d'arriver. Quand il y a autant de gens qui soudainement se retrouvent dans une situation précaire comme ça, je me dis, c'est sûr que c'est... On aurait, je pense, tous aimé s'en passer, là, hein? C'était pas nécessaire. Mais ce qui peut ressortir de ça, c'est une plus grande solidarité puis une meilleure compréhension de ce qu'on demande depuis tellement longtemps, c'est-à-dire un filet social solide, des emplois protégés avec des congés de maladie payés, avec des emplois syndiqués. On demande des services de santé qui ont de l'allure. On veut protéger notre personnel de la santé. On ne veut pas les brûler. Les emplois de première ligne, on veut qu'ils soient bien payés. On veut que les gens puissent avoir un endroit sécuritaire où dormir ou se loger qui est abordable. Ce n'est pas des demandes qui sont vraiment là, surprenantes ou... complètement irréaliste. Tout le monde a besoin d'une certaine base pour bien vivre et être en santé. Puis je pense qu'en ce moment, les gens en prennent conscience, ils se sentent très concernés et ils ont peut-être aussi peur eux-mêmes qu'ils vont peut-être se retrouver à dormir dans leur voiture ou à devoir choisir entre leur loyer puis leur nourriture. Et dans ces moments-là, on a vraiment deux choix. On a soit se retourner sur soi-même puis vraiment, tu sais, vraiment en faire comme son combat personnel, mais on peut aussi en faire un combat collectif puis être capable de démontrer plus d'empathie puis de compréhension envers des gens qui en arrachaient déjà et peut-être qu'on avait plus de difficultés à se voir comme en eux. Et là, en ce moment, on se retrouve vraiment beaucoup de personnes dans le même bateau et c'est pour moi une opportunité de dire non, on ne retournera pas à un statu quo. C'est l'opportunité maintenant. Là, je ne suis plus capable de payer mon loyer. Puis c'est vrai que ça n'a pas d'allure de payer presque 2000 $ pour un appartement, deux chambres à Victoria. C'est inacceptable. Puis peut-être que je ne le voyais pas avant, mais là, je le vois maintenant. Puis là, j'embarque. Et je pense que pour moi, si j'ai un appel à lancer, c'est un appel aussi à se dire qu'on a tous un rôle à jouer. Et si cette crise-là amène une précarité ou des inquiétudes, on peut s'en servir. Puis je pense qu'on peut bâtir un monde meilleur puis plus équitable pour tout le monde. Et ça, j'y crois vraiment. Puis s'il y a quelque chose vraiment que cette crise-là va amener, ça va être soit une plus grande solidarité avec vraiment des changements majeurs ou bien on va passer à côté. Mais moi, j'ai vraiment espoir que les gens maintenant prennent conscience de l'importance de tous ces trucs-là vraiment pour leur bien-être et leur sécurité. Fait que ça, j'y crois. Et j'espère que c'est ça qui va ressortir de cette crise-là finalement.
Et avant de conclure, Marie-Lou, une dernière question. Si on a envie d'aider, si on se sent concerné, si on se sent touché par cette question, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour chacun d'entre nous?
Bien, c'est sûr que tu sais, il y a toujours les classiques comme si on est en mesure financièrement de faire un don ou que ce soit un don à un organisme ou un don de nourriture ou des trucs comme ça, c'est sûr que c'est toujours... Il y a toujours ça ne change pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans une situation où ça ne sera peut-être pas possible, donc il faut penser à d'autres choses. Mais c'est sûr que, par exemple, de demander aux politiciens de rendre des comptes, que ce soit quand la mairesse présente son compte rendu ou que ce soit les autorités provinciales, quand il y a une opportunité pour les citoyens de participer, poser des questions, mais ça serait bien que les gens posent des questions aussi puis demandent aux politiciens de rendre des comptes, surtout en lien avec les populations plus vulnérables. Sur la question du logement, mais je dirais qu'il y a beaucoup d'organisations en ce moment dans différentes villes à Victoria. Il y a une association de locataires, donc pour la défense des droits des locataires puis pour le combat pour un logement abordable, mais c'est le temps de se joindre. Et ça, c'est une façon très, très concrète. Ça ne demande pas d'argent, ça ne demande pas énormément de temps, mais c'est la mobilisation pour les gens qui cherchent en ce moment. C'est aller à votre, tu sais, localement, quel groupe existe, puis embarquez, impliquez-vous, informez-vous, éduquez-vous, parce qu'il n'y a aucune raison que le logement soit si cher. Il n'y a aucune raison valide. Là. C'est purement créé. Et il y a des gens qui profitent financièrement de cette situation-là pendant que les gens, eux, ont tout à perdre. Je pense que s'éduquer autour de la question puis d'embarquer dans le combat, parce que ça va être le gros combat en Colombie-Britannique. Puis je pense vraiment qu'on peut ensemble changer les choses. Puis c'est sûr que je dirais de continuer à rester informé, mais de ne pas contribuer à les mésinformations, de ne pas embarquer dans une peur, dans une anxiété collective. Je pense qu'on peut, il y a une très grande solidarité que je vois moi un peu partout qui est en train de se former, puis mobilisons-nous, aidons-nous, puis utilisons nos forces pour vraiment, je pense, bâtir des communautés plus fortes. C'est le temps de construire quelque chose ensemble puis de ne pas se sentir isolé ou un peu pris dans cette anxiété-là. Fait que ça, je pense que c'est des trucs qui ne demandent pas nécessairement des ressources financières énormes. Puis c'est sûr que si les gens peuvent s'impliquer, donner de leur temps, aider un voisin, des trucs comme ça, c'est vraiment le temps de le faire. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va passer à travers.
Marie-Lou, je te remercie infiniment pour cette interview riche, enrichissante. Et est-ce que tu as une actualité? Est-ce qu'on te retrouve quelque part à Victoria, une production universitaire, bientôt une conférence, un colloque?
Bien, en fait, tout est annulé. Donc, je fais ce que je peux en travaillant dans mon salon. Mais c'est sûr qu'on peut me suivre sur Instagram. ML, avec le underscore, la barre, le tiret plus bas gagnant. Donc, c'est mon compte professionnel ou sur Twitter. On peut me retrouver facilement. C'est là que je fais beaucoup de mon travail en ce moment. Mais vraiment, c'est là aussi qu'on peut suivre mes trucs. En temps normal, ça serait le temps de participer à plein de conférences. Mais tout a été annulé. Beaucoup de choses à venir, mais pour le moment, j'utilise beaucoup mon énergie pour contribuer au dialogue puis assurer qu'on a des conversations qui sont informées, qui sont constructives, puis bâtir un monde meilleur à plus long terme.
Eh bien, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir sur nos ondes du 107.9 FM, en espérant t'y retrouver très bientôt avec plein de bonnes nouvelles. Moi, je te remercie une nouvelle fois pour cette interview enrichissante, intéressante, et j'espère que tu repasseras dans nos studios dès qu'ils seront réouverts. Ce sera un plaisir pour nous de te recevoir pour une nouvelle émission de Regards sur le Grand Victoria. Merci Marie-Lou.
Oh ben là, c'est sûr que j'accepte l'invitation. On va se revoir bientôt. Merci beaucoup.
Merci à toi Marie-Lou, merci encore, et également je vous remercie vous aussi chers auditeurs du 107.9 FM d'avoir été une nouvelle fois fidèles à cette émission de Regards sur le Grand Victoria. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous, et d'ici là je vous souhaite de passer un excellent long week-end de Pâques. À bientôt.